Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ensemble pour la suite du roman de Lampedusa, Le Guépard. Il y eut 2 semaines d'enchantement. L'ouragan qui avait accompagné le voyage des officiers fut le dernier de la saison. Ensuite, resplendit l'été de la Saint-Martin, qui est en Sicile la vraie saison de volupté. Atmosphère lumineuse et azurée, oasis de douceur rompant l'âpre cours des mois, l'été de la Saint-Martin persuade, égare les sens par sa mollesse, invite par sa tiédeur à des nudités secrètes. Des nudités érotiques, on ne peut dire qu'il y en eut au palais de Donna Fugata, et pourtant la sensualité s'y répondait, s'y exaltait, d'autant plus pénétrante que plus soigneusement contenue. La demeure des Salina avait été, 90 ans plus tôt, un lieu de rendez-vous pour ces plaisirs obscurs où se complaisait le XVIIIe siècle agonisant. Mais la régence sévère de la princesse Marie-Caroline, le regain de religiosité qui accompagna la restauration, le caractère même de Don Fabrice, qui se contentait d'être gaillard avec bonhomie, avait fait oublier les égarements bizarres d'antan. Les petits diables en perruque poudrée avaient été mis en fuite. Ils existaient certainement encore, mais à l'état larvaire. Ils hivernaient sous des amas de poussière, dans Dieu sait quelle mansarde de l'immense édifice. L'entrée d'Angélique parmi les Salina avait un peu réveillé ses larves, on s'en souvient peut-être. Mais ce fut l'arrivée de 2 jeunes officiers qui déchaîna vraiment les instincts amoureux tant pis dans les recoins de la maison. Ils accoururent immédiatement de toutes parts, comme des fourmis réveillées par le soleil, privées de leur venin, mais pleins d'une merveilleuse vivacité. L'architecture et la décoration rococo du palais, pleines de courbes imprévues, se mirent à évoquer des nudités couchées, des seins dressés. Chaque porte, en s'entr'ouvrant, soupirait comme un rideau d'alcôve. Cavriaggi était amoureux de Concetta. Mais enfant comme il l'était, non seulement par son allure, comme Tangrette, mais au plus profond de lui-même, il épanchait son amour sur les rythmes faciles de Prati et Aleardi, dans des songeries pleines d'enlèvements et de clairs obscurs dont il n'avait pas la hardiesse d'envisager les suites logiques et que d'ailleurs la surdité de Concetta écrasait dans l'œuf. Peut-être, dans l'intimité de sa chambre verte, s'abandonnait-il à des rêves plus concrets, on ne sait. Mais il est certain que si le jeune homme brossait pour sa part un peu du décor galant de cet automne, c'était en ébauchant des nuages et des horizons évanescents, et non comme créateur de solides architectures. Caroline et Catherine jouaient en revanche fort bien leur partie dans la symphonie de désir qui, en ce mois de novembre, circulait dans tout le palais, se mêlait aux murmures de la fontaine, au piétinement des chevaux amoureux dans les écuries et au grincement tenace des vers creusant leur nid nuptial dans les vieux meubles. Elles étaient jeunes et avenantes. Et bien que sans amoureux attitrés, elles se trouvaient plongées dans le courant d'excitation sensuelle qui émanait des autres. Souvent, le baiser que Conchetta refusait à Cavriaggi, les caresses d'Angélique, insuffisantes pour rassasier Tancrède, se reflétaient sur Caroline et Catherine, fleurissaient leurs corps intacts. Elles faisaient rêver et rêvaient elles-mêmes de boucles, de cheveux moites, de spécieuses sueurs, de brefs gémissements. La malheureuse demoiselle d'Ombreuil, à force de faire office de paratonnerre, fut entraînée dans ce tourbillon trouble et riant, comme ces psychiatres qui cèdent et succombent à la frénésie de leurs malades. Quand, après une journée de poursuites et de guets moralisateurs, elle s'étendait sur son lit solitaire, elle palpait ses seins fanés et murmurait au hasard des invocations à Tancrède, à Charles, à Fabrice. Le centre et le moteur de cette exaltation sensuelle était naturellement le couple de Tancrède et d'Angélique. Des noces assurées, bien qu'assez lointaines, étendaient leur ombre rassurante sur le sol brûlé de leur désir mutuel. La différence de classe sociale trompa les deux familles. Don Calogero crut que dans la noblesse, il était normal d'accorder de longs moments de solitude à deux amoureux. Et la princesse Maria Stella jugea que, pour des gens comme les Cédara, la fréquence des visites d'une fiancée ainsi qu'une certaine liberté d'attitude qu'elle n'aurait pas approuvée chez ses filles allait de soi. Ainsi, les visites d'Angélique au palais se firent toujours plus fréquentes. Elle finit par y passer le plus clair de son temps. Petit à petit, on cessa même de l'escorter, sinon symboliquement. Son père la quittait bien vite, se rendait au bureau pour y découvrir ou tramer des manœuvres cachées. Sa femme de chambre disparaissait dans l'office pour boire du café et jeter la mélancolie parmi les malheureuses domestiques. Tancrède voulait qu'Angélique connût le palais tout entier, avec son inextricable réseau d'appartements pour les invités, ses salons pour les réceptions, ses cuisines, ses chapelles, ses théâtres, ses galeries de tableaux, ses remises à l'odeur de cuir, ses écuries, ses serres étouffantes, ses passages, ses escaliers dérobés, ses terrasses, ses portiques et surtout la série des appartements négligés et désaffectés, oubliés depuis des années, qui formaient un labyrinthe compliqué et mystérieux. Tancrède ne se rendait pas compte, ou plutôt se rendait parfaitement compte, qu'il entraînait la jeune fille vers le centre caché de tout ce cyclone sensuel. Et Angélique, en ce temps-là, voulait tout ce que voulait Tancrède. Les expéditions à travers cet édifice presque illimité étaient interminables. On partait comme pour une terre inconnue, et c'en était vraiment une, car Don Fabrice lui-même n'avait jamais mis les pieds dans mince appartement et recoin. Il en tirait une grande satisfaction, répétant qu'un palais dont on connaît toutes les pièces n'est pas digne d'être habité. Les deux amoureux s'embarquaient pour Cythère sur un vaisseau fait de chambres sombres et de chambres ensoleillées, d'appartements luxueux ou misérables, vides ou bourrés de vieux meubles hétéroclites. Ils partaient accompagnés de Cavriaggi ou de Mademoiselle d'Ombreuil, parfois de tous les deux. Le père Pyrone, avec la sagesse coutumière de son ordre, se refusa toujours à le servir de chaperon. La décence extérieure était ainsi sauvegardée. Mais dans le palais de Donna Fugata, il n'était pas difficile d'égarer qui voulait vous suivre. Il suffisait d'enfiler un couloir, Il y en avait de longs, étroits et tortueux, avec de petites fenêtres grillagées qu'on ne pouvait parcourir sans angoisse. Puis de tourner sur un balcon, de grimper un petit escalier complice. Les deux jeunes gens se retrouvaient invisibles, lointains, isolés comme dans une île déserte. Leur seul témoin était un portrait au pastel tout fané qu'un peintre inexpérimenté avait privé de regard, ou, sur un plafond aux fresques effacées, une bergère qui comprenait immédiatement les choses. Cavriaggi, du reste, en avait vite assez, et dès qu'il rencontrait sur sa route une pièce connue ou un escalier descendant au jardin, il s'éclipsait, autant pour faire plaisir à son ami que pour s'en aller soupirer en contemplant les mains glacées de Concetta. La gouvernante résistait plus longtemps, mais tout a une fin. On entendait ses appels se perdre peu à peu dans le lointain et rester sans réponse. « Tancrède, Angélique, où êtes-vous ?» Puis tout retombait dans un silence à peine troublé par le galop des rats au-dessus des plafonds, par le froissement d'une lettre centenaire oubliée là et que le vent faisait glisser sur le plancher. C'était autant de prétextes à peur délicieuse, à étreinte rassurante. L'Éros se tenait toujours aux côtés des fiancés, malicieux et tenaces. Le jeu dans lequel il les entraînait était plein d'enchantement et de hasard. Tous deux, à peine sortis de l'enfance, prenaient plaisir au jeu lui-même. Ils trouvaient délicieux de se poursuivre, de se perdre, de se retrouver. Mais quand ils s'étaient rejoints, leur sens aiguisé reprenait le dessus. Les cinq doigts du garçon s'entrelaçaient aux doigts de la jeune fille en un geste cher au sensuel indécis où effleuraient suavement les veines pâles de son dos. Ces contacts bouleversaient tout leur être, préludaient à des caresses plus insinuantes. Une fois, Angélique se cacha derrière un énorme tableau posé à terre. Pendant quelques minutes, Arturo Corbera, au siège d'Antioche, protégea son anxiété gonflée d'espoir. Cependant, Tancrède la dénicha, le visage barbouillé de toile d'araignée, les mains voilées de poussière, l'empoigna et la serra contre lui pendant qu'elle répétait sans cesse et sans s'arrêter. « Non, Tancrède, non !» Refus qui était une invite, car en fait, il se contentait de fixer ses yeux bleus dans les grands yeux verts. Une autre fois, par un matin lumineux et frais, elle frissonna dans sa robe d'été. Sur un divan couvert d'étoffes en lambeaux, il la serra contre lui pour la réchauffer et sentit le souffle parfumé de la jeune fille caresser son front et ses cheveux. Ce furent des moments d'extase douloureuse où le désir se changeait en tourment et la retenue en délice.
Ooh!
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous revoici de nouveau avec le guépard de Lampedusa après ce petit moment musical. Dans ces appartements abandonnés, les chambres n'avaient ni nom ni physionomie caractéristique. Ils baptisèrent les pièces qu'ils traversaient de noms qui commémoraient leur découverte réciproque à la façon des navigateurs débarquant dans le Nouveau Monde. Une vaste chambre à coucher dans l'alcôve contenait un spectre de lit à baldaquin surmonté d'un squelette de plumes d'autruche, resta dans leur souvenir « chambre des peines ». Un petit escalier au degré d'ardoise, usé et fêlé, fut nommé par Tancrède l'escalier de l'heureuse glissade. Parfois, ils ne savaient plus où ils étaient et perdaient vraiment le nord à force de tours, de détours, de poursuites, de longues haltes pleines de contacts et de murmures. Ils se penchaient à une fenêtre aux vitres brisées pour comprendre, par l'aspect d'une cour ou la perspective d'un jardin, dans quelle aile du palais ils se trouvaient. Parfois, cela s'avérait impossible. La fenêtre ne donnait pas sur une cour, mais sur un passage intérieur, également anonyme et inconnu, qui se signalait seulement par une charogne de chat ou l'immanquable tas de pâtes à la tomate qu'on avait vomi là peut-être ou bien jeté par une fenêtre. Tombant des combles, le regard d'une femme de chambre en retraite les découvrait. Un après-midi, ils trouvèrent dans une armoire quatre de ces boîtes à musique dont l'ingénuité affectée du XVIIIe siècle faisait ses délices. Trois d'entre elles, noyées dans la poussière et dans les toiles d'araignée, restèrent muettes. Mais la dernière, moins vieille, mieux protégée par sa gaine de bois sombre, se mit en branle. Le cylindre de cuivre hérissé de pointes tourna et les languettes d'acier soulevées tour à tour firent entendre une musiquette grêle au son aigu argentin. Le fameux carnaval de Venise. Les baisers de Tancrède et d'Angélique épousèrent le rythme de cette gaieté désenchantée. Quand leur étreinte se relâcha, ils furent surpris de découvrir que la chanson s'était tue et que leurs effusions n'avaient suivi d'autre cadence que celle d'une musique fantôme. Ils eurent une fois une surprise d'un autre genre. Dans une des chambres de l'ancienne Foresteria, ils découvrirent une porte cachée par une armoire. La serrure centenaire céda bien vite à ses doigts heureux de se rencontrer et de s'enlacer pour la forcer. Derrière, apparut un long et étroit escalier qui déroulait en courbe moelleuse ses degrés de marbre rose. Tout en haut, une autre porte, ouverte, au capitonnage crevé. Puis, un appartement étrange et gracieux. Six petites chambres groupées autour d'un salon de proportions moyennes, toutes pavées comme le salon de marbre très blanc incliné en pente douce, vers une rigole latérale. Sur les plafonds bas, des stucs colorés bizarres que l'humidité avait heureusement rendus indéchiffrables. Au mur, de grands miroirs hébétés, pendus trop bas. L'un d'eux brisé presque en son centre, tous encadrés de chandeliers du XVIIIe siècle. Les fenêtres donnaient sur une cour écartée, une sorte de puits aveugle et sourd qui laissait entrer une lumière grise et qui n'offrait pas de vis-à-vis. Dans chacune des pièces et dans le salon, d'amples divans, de trop amples divans, exhibaient leur soie, déchirée autour des clous et des accoudoirs tachés. Sur les cheminées, de délicates statuettes de marbre aux formes compliquée, des nus en plein paroxysme, avaient été martyrisés et mutilés par un marteau rageur. L'humidité avait maculé les murs dans leur partie supérieure et peut-être même vers le bas, à hauteur d'homme, là où se formaient des traces étranges, des épaisseurs inattendues aux sombres couleurs. Tancred, inquiet, ne voulut pas qu'Angélique s'approchât d'un placard encastré dans le mur du salon, mais lui-même l'entrouvrit. Il était très profond, mais vide, à part un rouleau d'étoffe sale dressé dans un angle d'où sortait une gerbe de petits fouets, de cravaches et de nerfs de bœufs, quelques-unes à manches d'argent, d'autres à moitié recouvertes d'une soie très ancienne, fort gracieuse, blanche, avec de fines raies bleues sur laquelle on voyait trois rangées de taches noirâtres. Il y avait aussi de petits engins métalliques, inexplicables. Tancred eut peur. Peur aussi de lui-même. « Allons-nous-en, ma chérie. Il n'y a rien d'intéressant ici. » Ils refermèrent soigneusement la porte, redescendirent l'escalier en silence, remirent l'armoire à sa place. Pendant tout le reste de la journée, les baisers de Tancred furent d'une légèreté aérienne, comme des baisers de rêve et d'expiation. En vérité, le fouet était l'objet que l'on rencontrait le plus fréquemment à Donna Fugata, après le guépard. Le lendemain de leur découverte dans l'énigmatique petit salon, les deux amoureux tombèrent sur une autre cravache, non dans un appartement inconnu, mais dans le plus vénéré de tous, celui du duc saint. Celui où, vers la moitié du XVIIIe, un illustre Salina se retira comme en un couvent privé pour y faire pénitence et y organiser à sa façon son itinéraire vers le ciel. Les pièces exiguës au plafond bas, au sol d'humble terre battue, aux murs passés à la chaux blanche, évoquaient le logis d'un pauvre paysan. La dernière chambre s'ouvrait sur un balcon d'où l'on dominait l'étendue jaune des terres fuyant vers d'autres terres, baignant dans une lumière triste. Sur l'un des murs, un énorme crucifix, plus grand que nature. La tête du dieu martyr touchait le plafond, ses pieds sanglants effleuraient le sol, la plaie du côté semblait une bouche, que la violence aurait immobilisée avant qu'elle eût pu prononcer les suprêmes paroles de salut. À côté du cadavre divin, un fouet à manche courte pendait à un clou. Six courroies de cuir, maintenant durcies, se terminaient par six boules de plomb, grosses comme des noisettes. C'était la discipline du duc saint. En cet endroit, Joseph Corbera, duc de Salina, se fustigeait face à son dieu et à son fief. Peut-être pensait-il que les gouttes de son sang pleuvant sur ses propriétés les rachèteraient. Il devait croire dans sa pieuse exaltation que seul ce baptême expiatoire pouvait les rendre vraiment siennes, sang de son sang, chair de sa chair. Et pourtant, les mottes de terre avaient échappé aux Salina. Nombre de celles que l'on voyait de cette fenêtre appartenaient aujourd'hui à d'autres, et notamment à Don Calogero. À Don Calogero, c'est-à-dire à Angélique, c'est-à-dire à son fils futur, au fils de Tancred. L'évidence de ce rachat par la beauté renouvelant le rachat par le sang qui s'était effectué ici donna à Tancred une sorte de vertige. Angélique, agenouillée, baisait les pieds transpercés du Christ. Tancred lui montra la discipline. Tu vois, cet engin, c'est toi. Vous avez la même fin. Comme Angélique ne comprenait pas, levait la tête pour lui sourire, belle, mais sans expression. Il s'inclina vers elle et lui donna un baiser sauvage, qui lui blessa la lèvre, lui meurtrit le palais et la fit gémir. Ainsi, les journées des deux jeunes gens se passaient en vagabondage extatique, en découvertes infernales que l'amour venait racheter, en apparitions de paradis perdus que ce même amour profanait. Une hâte dangereuse les poussait tous deux à interrompre ce jeu de hasard pour en empocher le gain sans plus tarder. Elle se faisait chaque jour plus aiguë, plus urgente. À la fin, ils ne cherchaient plus à se leurrer sur le but de leur promenade, mais s'en allaient en silence vers les pièces les plus cachées, celles qui étouffaient tous les cris. D'ailleurs, aucun cri ne se ferait entendre. Il n'y aurait que des invocations et des plaintes basses. Et pour finir, ils demeuraient immobiles, innocents, se serrant l'un contre l'autre, ayant pitié l'un de l'autre. Les pièces les plus dangereuses pour eux étaient celles de l'ancienne Foresteria. Elles étaient éloignées de tout, mais mieux entretenues, chacune avec un beau lit au matelas roulé qu'un coup de poing pouvait étendre. Un jour, la décision surgit non dans l'esprit de Tancrède, qui n'avait rien à dire en ses manières, mais dans tout son sang. Il fallait en finir. Ce matin-là, Angélique, en charmante coquine qu'elle était, lui avait dit « Je suis ta novice », lui rappelant ainsi avec la clarté d'une invite la première rencontre de leur désir. Déjà, toute décoiffée, la femme se rendait et s'offrait. Déjà, le mâle allait vaincre l'homme. Quand le mugissement du gros bourdon de l'église tomba à pic sur leur corps écrasé, ajoutant son frémissement au leur. Leurs bouches scellées durent se séparer pour un sourire. Ils se reprirent. Le lendemain, Tancrède partait. Ce furent les plus beaux jours de leur vie. Par la suite si inégale, si impure sur l'inévitable fond de la douleur. Il n'en savait rien encore et se tournait avec espoir vers un avenir plein de promesses concrètes, ce même avenir qui s'avérerait pétri de fumée et de vent. Quand ils furent devenus vieux et inutilement sages, leurs pensées revinrent à ces journées passées avec une insistante nostalgie. C'était le temps du désir toujours vivant, parce que toujours vaincu. Le temps où s'offraient des lits innombrables que toujours ils repoussaient, le temps de la frénésie sensuelle qui, matée, se sublimait durant quelques secondes en renoncement, c'est-à-dire en véritable amour. Tel fut le prélude de leur mariage, qui même sur le plan érotique devait être un échec. Mais ce prélude put constituer un ensemble indépendant, exquis et bref, comme ces ouvertures qui survivent à des opéras oubliés et qui contiennent sous forme d'ébauche plein de vitalité, mais voilées de pudeur, les airs qui se développaient maladroitement dans l'œuvre même et devaient faire faillite. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la lecture de ce roman de Lampedusa le Guépard que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.